Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui à l'animation, M. Michel Saint-Pierre et M. Yannick Patelli. Messieurs, bonjour.
Bonjour, Sébastien.
Bonjour à vous tous. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Michel.
Bonjour, Yannick.
Alors aujourd'hui, on va parler d'une journée bioalimentaire qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, en fait, le 26 mai dernier, à Drummondville, dans le centre d'exposition, le très beau centre d'exposition de ouais. Congrès de Drummondville, d'ailleurs, il faut le souligner, parce que pour une ville intermédiaire, je veux dire, entre Québec et Montréal, c'est effectivement un site magnifique.
D'ailleurs, je peux vous dire que Saint-Hyacinthe était très jaloux. Là, ils sont repris avec le Sheraton et tout le centre des congrès, mais à une époque, vous voyez un peu le tapis leur glisser en dessous des pieds parce que effectivement, le centre des congrès de Drummondville est très, oui. est très beau.
Et il y a certainement une compétition entre les deux villes, effectivement, pour attirer les événements à caractère agricole et agroalimentaire, parce que les deux peuvent prétendre. Saint-Hyacinthe peut prétendre être le pôle de l'agriculture, mais Drummondville peut prétendre être le centre du Québec.
Oui, il est assez central.
Alors voilà, c'était donc le 26 mai dernier, c'était donc le ministre de la Montagne qui a organisé. Je pense que c'était la quatrième journée du plan 2018-2025, si je me souviens bien. Et il y avait beaucoup de monde. On y croisait dans les couloirs Christian Verbeek. C'est pour ça qu'on reçoit M. Legault aujourd'hui, son directeur général, Ernest Desrosiers de la Financière, Martin Caron de l'UPA, avec qui j'ai pu avoir quelques échanges d'ailleurs intéressants. Et en fait, on a pu voir en fait, que dans cette journée-là, il y avait quand même des... On va commencer par les points positifs, parce qu'il y avait des points positifs qui sont ressortis. Notamment, on voyait qu'on nous annonçait qu'on avait 49 000 hectares de bio. Il y avait un objectif en fin de planification qui était de 98 000 hectares. Et on serait rendu, d'ailleurs le tableau de la presse le transcrit aussi, on serait rendu à 121 000 hectares de bio au Québec. Donc ce qui est quand même un exploit d'avoir dépassé les objectifs. Par contre, effectivement, il y a une problématique, c'est que est-ce que c'est lié à la pandémie, est-ce que c'est lié au changement à l'inflation et au changement des consommateurs, il y a une diminution de la demande de consommation du bio. Donc ça, c'est une problématique. On pourra peut-être en parler avec M. Legault tout à l'heure, comment vous le lisez. Et puis par contre, pour ce qui est aussi des achats des Québécois, en fait, en 2016, on parlait de 24 milliards de produits québécois en fait, achetés. Et on visait 24 milliards en 2016, on visait 34 milliards en 2025 et on les aurait déjà obtenus en 2022. Donc, dans certaines façons, il y avait quand même des points assez positifs qui étaient avancés dans cette rencontre et beaucoup de panels intéressants, notamment Agropur qui nous a aussi parlé d'un produit alcoolisé, en fait, réalisé à base de résidus de lait. Donc, on voyait qu'au niveau de la réflexion. Marketing, en tout cas, d'Agropur et peut-être même une certaine réalisation avec des pertes, en fait, on pouvait peut-être faire du positif. Alors, tout ça, c'était une journée intéressante pour tout ça. Et monsieur Legault, vous êtes avec nous. Peut-être, comment vous avez entendu parler, j'imagine, de cette explosion des hectares en bio, mais de la baisse de la demande du bio, ça vous interpelle, vous?
Ah, bien entendu. C'est sûr que ce phénomène-là, on l'observait déjà depuis un certain moment. Des choses qu'on discute à l'interne avec nos producteurs bio, on entend fréquemment parler. On a deux producteurs bio, nous, sur notre conseil d'administration. Donc, c'est un phénomène qui en inquiète certains parce qu'on ne sait pas si c'est une tendance de fond ou une tendance passagère. C'est sûr que l'inflation n'aide pas. Alors, on voit qu'il y a une certaine fragilité de ce côté de cette filière-là.
Est-ce que la cassure, vous diriez, s'est faite plus là depuis qu'on parle d'inflation depuis un an et demi, ou s'est faite au moment de la pandémie, en fait? Parce qu'il me semble que pendant la pandémie, on entendait dans tous les discours, justement, c'était plus agriculture de proximité, agriculture plus alimentation plus saine. On a vécu beaucoup 2020, 2021, 2022 même sur cette thématique-là, en fait. Puis là, ça casse. Est-ce que ça casse réellement à cause de l'inflation, selon vous?
Vous me posez la question.
Oui.
Bien, en fait, on est tous un peu observateurs sans avoir toutes les informations pour bien analyser la situation. La pandémie a changé un peu comment les gens géraient leur vie, leurs loisirs, leurs passe-temps. Les gens ont commencé à accorder plus de temps à l'alimentation, à faire de la nourriture à la maison. Est-ce que c'est un facteur favorable pour les produits locaux, les produits bio? Moi, je dirais qu'il y a peut-être un, il y avait peut-être un phénomène favorable pour le bio dans le cadre de la pandémie. Ma compréhension, et ce n'est pas la seule année où on le vit, l'impact de l'inflation, on l'a vécu en 2009, si je ne me trompe pas, encore une fois, il y avait eu une inflation assez importante, puis on l'observait beaucoup plus en termes de superficie en production, une baisse de demande pour les produits de grains bio. Donc, l'inflation a toujours affecté le secteur bio. Là, on a un phénomène assez spectaculaire au niveau de l'inflation. Là. Alors, on le vit plus sévèrement présentement.
Je peux ajouter peut-être que lors de notre mission en Normandie l'automne passé, là, on était au début du phénomène, enfin début, non, l'année commençait à s'avancer, mais malgré tout, l'inflation est importante.
On la pensait contrôlée éventuellement.
Oui, mais les producteurs de lait bio nous disaient qu'ils passaient un mauvais moment et ils attribuaient ça essentiellement, eux en tout cas là, ou très largement, au phénomène d'inflation et de prix associé à ces produits-là, qui fait en sorte que dans l'inflation, quand tout coûte plus cher, par exemple l'énergie, entre autres, ben les gens décident de restreindre un peu leur budget ou changer leurs habitudes. Pour eux, c'était ça. C'était acquis en octobre dernier, lorsqu'on était là.
Effectivement. Mais par contre, parallèlement, donc on voit donc la demande du bio chez le consommateur qui diminue, mais on regarde les achats québécois en alimentation augmentent. Donc, parce que quand on nous dit que dans les chiffres, la prévision était d'atteindre 34 milliards en 2025, on l'a atteint en 2022, alors qu'on avait juste 24 milliards en 2016. Donc, on achète moins de bio, mais ça n'enlève pas l'achat, on va dire, national.
Oui, effectivement.
C'est même, c'est même des courbes inversées, en fait, on va dire. C'est un point.
Une chose que j'aimerais qu'on regarde avec M. Legault, c'est comment évolue, par exemple, les principales productions de grandes cultures par rapport à, par exemple, notre autosuffisance. Là, on sait, par exemple, que le maïs, on est un peu exportateur, là, je ne sais pas dans quel pourcentage, mais en tout cas, ça dépasse nos besoins intérieurs. Mais qu'en est-il? Y a-t-il une évolution qu'on pense, par exemple, le blé, on est très importateur. Est-ce qu'il y a une tendance là, qu'on peut commencer à observer de ce côté-là? Je parle du blé comme ça parce que ça pourrait être autre chose aussi. Ça pourrait être des oléagineux. Ça pourrait être également peut-être les légumineuses, en fait, que je cherchais. Les légumineuses, ça pourrait être ça aussi. Est-ce qu'on peut observer quelque chose? Est-ce que vous avez ces données-là?
Ces données-là d'évolution des cultures produites en regard des besoins locaux, pas vraiment. La particularité qu'on a dans les filières qui se développent comme la protéine, puis Concertation Grain Québec, sur lequel on siège, a un comité sur les protéines, un comité sur les grains de consommation humaine. Mm-hmm. Évidemment, il y a des belles opportunités, mais il y a des gros enjeux là pour pouvoir voir ces filières-là se développer. On a même un projet d'augmenter la production de blé panifiable parce qu'il y a quand même une demande conséquente ici au Québec, notamment même pour les niches, c'est-à-dire les farines de spécialité qui prennent l'ampleur, les pains locaux. En 2022, on a eu peur d'avoir une certaine rupture d'approvisionnement là, de blé local, de farine locale pour répondre à la croissance de la boulangerie locale. Donc, on s'y intéresse beaucoup, mais il y a d'énormes enjeux. Hein. On est quand même un marché ouvert, on est une production qui est affectée par les enjeux du monde entier. Donc, on répond à des signaux internationaux et notre production s'accorde probablement beaucoup plus avec les signaux internationaux qu'aux signaux locaux. Là. Et puis, c'est vrai jusqu'à un certain point, on l'observe aussi en France. C'est un pays qui produit beaucoup de blé. Ils ont une grosse demande en blé. Ils sont en déficit de maïs. Mais bon, le territoire, les marges de production, les marges économiques des différents grains font en sorte qu'ils se retrouvent quand même avec des surplus exportables alors qu'ils sont déficitaires pour certains autres grains. Donc, c'est un phénomène qu'on observe aussi au Québec, là. C'est-à-dire que l'offre se fait beaucoup sur les signaux qui proviennent du marché international.
Et le fait aussi que, bon, ça prend un certain temps avant de maîtriser là, une nouvelle production pour avoir des rendements qui sont significatifs. Donc, ça prend quand même du temps. Il y a une sorte d'apprentissage dans une nouvelle production, quelle qu'elle soit. Puis là, je dis nouvelle, c'est dans un changement de production. C'est pas nécessairement quelque chose qui est complètement nouveau, mais simplement d'introduire du blé dans une rotation, ça implique quand même que, tranquillement, on atteint, dans un premier temps, on n'a pas des objectifs. On l'a vu d'ailleurs par les rendements historiques dans les autres grandes cultures, dans le maïs-grain notamment. On est en 2023 à un niveau pas mal plus élevé qu'on pouvait l'être il y a une vingtaine d'années, je pense. Donc c'est un peu la même chose pour toute nouvelle production.
Mais il reste que le blé, si je me trompe, M. Legault, il reste que le blé qu'on dit du Québec, le blé utilisé, en tout cas dans les farines du Québec, nous, de ce qu'on a pu regarder et enquêter un peu, parce qu'en fait, on a fait une mission avec les céréaliers du Québec au mois de mars en France, et suite à ça, on s'est quand même intéressé à tout ce qui se passe ici, que ce soit par les moulins de Soulanges, première moisson, on a pu échanger avec beaucoup de monde, et en fait, on se rend compte que le blé qu'on transforme en farine au Québec vient beaucoup, beaucoup de l'Ouest canadien. Pour l'instant, il n'y a pas une production de blé au Québec si importante que ça, en fait.
Non.
Je suis d'accord. On a de grosses infrastructures de production de farine au Québec, dans la région de Montréal. Cette farine-là se destine beaucoup à l'exportation. Et il y a un gros potentiel de ce côté-là. Ce qu'on remarque, c'est qu'à un certain moment donné, les signaux qu'on recevait à l'époque des grandes minoteries, c'est qu'il y a toujours un défi pour une petite production locale. Hein? La qualité est plus variable, c'est des petits lots, une qualité variable. À l'époque, ce qu'on nous disait, ces grosses compagnies-là, c'est qu'il y avait un problème d'uniformité, puis leur capacité à mettre dans leur recette du blé québécois, ben, ne pouvait pas excéder un certain pourcentage. À l'époque, on parlait de 15%. Donc ça, c'est un défi, je pense, qui demeure pour leur farine, disons, plus commerciale. Mais ces grandes minoteries-là s'intéressent beaucoup aussi au marché local. C'est un phénomène qu'on a observé beaucoup dans les brasseries. Les grandes brasseries se sont intéressées aux microbrasseries. Il y avait beaucoup de développement au niveau de la demande de ce côté-là. On commence à observer la même chose, là. On se rend compte qu'il y a des niches de marché, de la boulangerie de spécialité, des farines de spécialité, puis ces grandes compagnies-là s'y intéressent. Et ce qu'on entend dire, on n'a pas de données, là, vraiment, c'est pas documenté plus qu'il faut, mais les signaux qu'on reçoit, c'est que ces grandes compagnies-là, Montréal, s'intéressent et ont même déjà commencé à prendre leur place là, dans le marché des farines locales à base de blé québécois. Donc, ce n'est plus seulement, quelque chose qui est entre les mains de quelques joueurs que l'on connaît bien, là, comme Moulin de Soulanges ou les autres. Ces grandes compagnies-là commencent à s'y intéresser. Alors, c'est pour ça qu'on veut augmenter la production. L'autre grand défi qu'on vit, c'est que, compte tenu de l'écart entre le prix du blé fourragé et du blé panifiable, ben, il y a une tendance à ne pas vouloir nécessairement investir dans la valeur ajoutée, parce que l'écart est trop faible. Hein. Il y a toujours un risque à entreposer du blé panifiable, s'assurer de maintenir la qualité. Souvent, les livraisons sont plus tardives. Ce ne sont pas tous les élévateurs qui sont prêts à faire l'effort de valorisation, compte tenu qu'on est déjà très déficitaire en blé fourragé au Québec pour les fabricants d'aliments. Il y a une tendance à envoyer beaucoup ce blé-là, même s'il est de qualité, l'envoyer au fourrager. Mm-hmm. Alors, il y a un défi de ce côté-là. Ça faisait partie des trois grands volets qu'on regardait, là. Développer un bon système de services conseils agronomiques autour du blé panifiable, d'avoir de bonnes références économiques au niveau du blé panifiable, mais aussi de comprendre le phénomène de commercialisation, là. qui tend à privilégier le marché de la production animale.
Et comme disait Michel tout à l'heure, le blé est important pour la qualité de la terre, puisqu'on parle de rotation maïs-blé, maïs-soya-blé dans ce cas-là. Est-ce que aussi le fait, parce que vous allez pouvoir nous parler peut-être un petit peu des... Après, oui, on rend une pause, la publicitaire, parce qu'on me fait signe, mais après la pause, peut-être nous revenir pour nous expliquer aussi, parce qu'actuellement, on sent qu'on entend dire que la tonne de maïs, la tonne de soya, on ne l'achète plus tout à fait au prix qu'on l'achetait il y a quelques mois, là, en fait. Donc, le marché est en train de changer aussi. Est-ce que ça peut donner aussi un boost, en fait, à la production du blé? Mais on va aller à la pause, on va répondre à la question après la pause.
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Depuis 1992, Première Moisson est fière d'être à votre table avec les produits inspirés des méthodes traditionnelles françaises. Venez découvrir la grande sélection de pains frais du jour confectionnés par des artisans boulangers et mettant en vedette les blés du Québec. Visitez premièremoisson.com ou rendez-vous à la boulangerie la plus près de chez vous.
Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
La Vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La Vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec.
Alors bon retour de la quotidienne, nous sommes avec Benoît Legault qui est notre invité, directeur général des producteurs de grains du Québec. On parlait tout à l'heure évidemment de la journée de la politique bioalimentaire qui a eu lieu il y a quelques jours. On faisait un peu le constat de tout ce qui s'est dit là, on a encore quelques points à souligner j'imagine tout à l'heure. Mais on parlait aussi, Michel a évoqué la rotation des cultures, maïs, soya, blé qui est très bon pour la qualité de la terre. Et la question que je posais avant la pause, c'est est-ce que la chute en fait des prix actuellement de la tonne de maïs et de la tonne de soya peut être un boost en fait pour que les producteurs du Québec fassent plus de blé en fait.
Oui, ben effectivement, s'il y a un changement au niveau des prix relatifs entre les grains, une fois mis en relief avec les coûts de production, ça peut que ça devienne plus profitable. Le Québec c'est un grand territoire. La profitabilité d'une culture par rapport à une autre joue beaucoup de Montérégie au centre du Québec à la région de la Naudière. Donc, pour certains, le maïs peut être la culture la plus profitable. Bon, je ne parle pas aujourd'hui, mais en moyenne. Mais cet écart-là par rapport au soya puis au blé peut être moins important dans certaines régions, puis on l'observe. Donc, dès qu'une culture perd un peu de son avantage, ben ça peut faire une grosse différence dans certaines régions. On le voit aussi juste entre le maïs et le soya, ça peut bouger quand même de 10 % d'une année à l'autre. Le blé lui-même s'inscrit peut-être davantage dans une perspective long terme parce que Les bénéfices sont peut-être pas nécessairement observables, même avec les changements qu'on vit présentement au niveau des prix. Le réflexe du producteur est plus dans une perspective de long terme, parce que les gains qu'apporte le blé, d'un point de vue économique, se manifestent pas nécessairement les années plus récentes, parce qu'on sait qu'une rotation avec du blé permet d'avoir un impact positif là, sur le rendement du soya et du maïs. Donc, tout ça doit être comptabilisé. Et donc, c'est plus vu dans une période plus loin dans le temps. On a fait des scénarios dans le cadre de notre étude sur 9 ans. Et puis, effectivement, ça prend quand même, disons, 3 cycles de rotation de 3 cultures, donc 9 ans, pour commencer à avoir un intérêt du côté du blé, mais encore là, ça dépend des régions, parce que les simulations qu'on faisait, ce sont des simulations, mais un outil qui a été développé là, pour bien faire comprendre les choses aux producteurs, à Forêt-Lavoie. On se rendait compte que pour une région comme la Montérégie, ce phénomène-là économique intéressant qui pouvait amener une croissance du blé visait davantage le blé d'automne. Pour le blé de printemps, malgré les bénéfices qu'amène le blé, comme M. Saint-Pierre l'a dit, c'était pas assez important pour rendre ça économiquement intéressant. Puis je ne vous cache pas qu'il y a des gens qui le font, qui font le sacrifice parce que ils croient qu'une rotation blé, maïs, soya doit prendre place dans une perspective à long terme, mais d'un point de vue économique, dans plusieurs régions de Montérégie, ça peut présenter une perte de revenus à long terme. Mais le blé d'automne est intéressant, mais le défi qu'on vit, c'est que le blé d'automne n'est pas facile à implanter en Montérégie avec les enjeux là, de perte de culture durant l'hiver, de gel durant l'hiver. Mais on essaie de développer des services agronomiques, des cohortes qui se forment présentement avec les agronomes du MAPAC là, dans les différentes régions de la Montérégie. Il y a une belle cohorte qui se développe à Saint-Hyacinthe pour essayer d'implanter, bien comprendre les enjeux du blé d'automne dans une région comme la Montérégie.
Oui, l'enjeu...
Alors, on tente le coup de ce côté-là parce que le fait que le blé est moins intéressant aussi, c'est que les compagnies y accordent beaucoup moins d'importance. On a eu des hausses spectaculaires de productivité dans le soya et dans le maïs parce que les compagnies y investissent beaucoup. Mais le blé, et notamment le blé de printemps, c'est quand même une culture qui est laissée pour compte en matière de recherche.
Oui.
Donc, le blé d'automne devient intéressant parce qu'il y a quand même un bon rendement. Les coûts de production ne sont pas tant élevés non plus, compte tenu que c'est une culture d'automne. Il y a des aspects aussi agro-environnementaux intéressants avec le blé d'automne.
L'enjeu du blé d'automne en Montérégie, c'est dans le fond le couvert de neige qui est pas toujours là et finalement le risque de gel qui est plus élevé. J'allais dire, on va Bosch à Québec, on va vous envoyer de la neige et nous autres, on n'en manque jamais. Mais M. Legault, il y a une autre céréale qui m'intéresse. C'est celle, c'est l'orge. Vous avez parlé des microbrasseries, il y a même des moyennes brasseries, parce que maintenant, ce ne sont pas toutes micro, mais il y en a et qui sont quand même ajoutées à l'offre très traditionnelle des très grandes brasseries. Elles doivent avoir un intérêt davantage, en fait particulier et supérieur pour l'orge produit localement. J'imagine, quand on opère une microbrasserie, je ne sais pas, dans une région quelconque du Québec, on doit certainement être fier de dire ben notre orge est produit localement. Est-ce que c'est le cas?
Oui, effectivement. Il y a beaucoup de producteurs qui décident de faire le saut parce qu'ils ont cette façon de voir les choses, là. Ce ressenti-là valorisant de produire un produit puis de le livrer très localement pour une consommation par un public qui est accessible à partir d'une filière. Si on observe ça, il y a toujours un noyau producteur qui embarque là-dedans, on l'a vu aussi dans le blé panifiable, mais dans l'orge brassicole, on l'observe à la fois dans le bio et dans le conventionnel. On évalue que l'orge brassicole, c'est peut-être environ 15 000 tonnes par année sur une production d'orge commercialisée là, qui tourne autour de 100-130 000 tonnes. N'empêche que c'est une culture qui est plus risquée, de ne pas atteindre les critères de qualité en matière de de germination et autres liés à l'orge brassicole, ben ça, c'est pas tous les producteurs là, qui sont prêts à prendre ces risques-là. Donc, il y a un enjeu de commercialisation aussi où certains producteurs sont pas prêts nécessairement à prendre les risques liés à la commercialisation. Mais comme vous le dites, il y a quand même une bonne partie de l'orge brassicole qui se destine à des grosses malteries. Là. Canada Malt est quand même un gros acheteur de l'orge brassicole du Québec.
Parce qu'effectivement, il faut faire le maltage de cette orge-là avant de revenir dans la production de bière. Il y a une étape à suivre. J'imagine que localement, tout le monde n'est pas équipé pour produire, pour faire du malt avec son orge.
Souvent, ce sont des entreprises séparées. Vous allez voir quelqu'un qui fait du malt à petite taille.
Oui.
Il va revendre ça aux brasseries. Il y a un peu de tout. Les brasseries, les microbrasseries s'approvisionnent de petites malteries locales. Certaines s'approvisionnent auprès de Canada Malt aussi.
Ah bon?
Mm-hmm. Il nous reste 3 ou 4 minutes. J'aurais peut-être deux questions en fait, pour vous, M. Legault, pour le PGQ. D'abord, ben, peut-être votre bilan en fait, de la journée de la politique bioalimentaire, comment vous l'avez vécu et ce que vous attendez maintenant. Et également aussi, peut-être réagir au fait que au même moment en fait, où on dit que les hectares de bio augmentent, les journaux nous abreuvent d'informations comme quoi les demandes de pesticides sont en permanente augmentation. Donc, est-ce qu'il y a une explication à ça, en fait?
Oh oui, en fait, des explications, faire des liens avec ces choses-là, c'est pas évident, dans le sens que le bio, c'est une filière qui se développe bien. Il y a une demande qui croît assez rapidement. Malheureusement, là, il y a eu quelques freins, mais le défi dans le bio, dans le secteur des grains, parce que j'aimerais quand même souligner que quand on parle de la croissance des superficies en bio, une bonne part est reliée, disons, à la production maraîchage et pour le grain, ça a quand même doublé. Là, j'ai pas le chiffre de 2022, mais on parlait à l'époque, en 2015, d'environ 24 000 hectares de céréales, grains, oléagineux en bio. On est à 52 000 aujourd'hui. En 2021, j'ai pas le chiffre de 2022, alors que lors de la dernière rencontre de vendredi, ils avaient le chiffre de 2022, mais on a quand même doublé. Là, le fait de doubler s'observe aussi dans les céréales bio. Mais le défi qu'on vit actuellement, c'est que on est quand même dans une situation où l'élevage bio ne se développe pas tant au Québec et on produit beaucoup de grains qui se destinent à l'élevage bio. Donc, je ne vous cacherai pas, il y a quand même une bonne part des grains bio qui se destinent à l'exportation aux États-Unis. Mm-hmm. Donc, c'est souvent ça que je dis quand j'ai des discussions, les médias m'interpellent beaucoup là-dessus en disant le bio, mais en même temps, il faut trouver un équilibre. Il y a un enjeu de filière locale dans le bio. Il faudra que la production des élevages bio puisse augmenter pour pouvoir destiner notre grain produit ici vers des filières locales. Donc, on vit ça présentement parce que moi, je constate qu'il y a quand même beaucoup de soya et de maïs bio exporté. Alors, c'est un des enjeux importants.
Et êtes-vous sorti donc avec un esprit positif de cette rencontre de la journée politique bioalimentaire?
Bien certainement. Moi, ce que j'aime beaucoup de ces rencontres-là, c'est le fait qu'on n'est pas assis seulement des gens de l'agriculture ou même, disons, des gens qu'on voit souvent de la transformation. La filière va au-delà. On a les gens du milieu de la nutrition, de l'alimentation, des enjeux locaux d'alimentation plus directs envers la population. Donc, c'est toujours une discussion intéressante. Ce que je trouve bien, c'est d'avoir quand même des cibles qui touchent, qui sont réalistes. On parle d'exportation, on parle d'investissement, puis on semble vouloir atteindre ces cibles-là, ce qui est très intéressant, parce que l'agriculture québécoise aurait de la difficulté à survivre sans l'exportation. Ça, on tient à le souligner, que ce soit pour nous, dans le grain, c'est vrai pour le grain exporté, mais c'est vrai aussi pour les produits qui utilisent des grains exportés. Donc, on aime bien que la politique bioalimentaire soit ce réalisme-là là, qui ressort de la politique, les enjeux d'exportation, d'investissement des producteurs et de la filière, de tous ceux qui gravitent autour de la production d'aliments. Moi, j'ai aimé, puis je suis quand même conscient qu'il y a une inflation, puis la hausse des chiffres qu'on a observés s'explique en partie par l'inflation. Mais le ministre Lamontagne a quand même dit qu'il y a quand même beaucoup qui est lié à la croissance des volumes.
Alors, c'est à peu près tout le temps qui nous reste pour la quotidienne d'aujourd'hui. Moi, le dernier point que je voulais vous dire aussi, dans les bonnes nouvelles de cette journée-là, on visait 85% des achats des institutions publiques qui soient dotées de cibles d'achat québécois. On nous a annoncé qu'on était déjà rendu à 73% avec 442 écoles publiques supplémentaires. Les nouvelles étaient plutôt bonnes.
Oui, oui, absolument, absolument.
Alors, merci à vous deux.
Merci, bonne
journée.
Legault. C'est un plaisir.
Ça fait plaisir, au revoir.